Allez, vous êtes toujours sur Canal Sud le 92.2 et donc c'est l'heure de la chronique du Tétalab, le bit et le couteau. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être un mot sur le générique, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Alors le générique, c'est un groupe américain de rock indépendant chiptune et qui s'appelle Anamana Gucci et donc le titre c'est My Skateboard Will Go On.
Ok.
Voilà.
Et comment tu l'as qualifié ce groupe ?
Alors c'est chiptune. C'est de la musique qui est faite à partir de sons synthétisés en temps réel et soit par des puces d'ordinateur, soit par des jeux électroniques hackés.
D'accord.
Et là en l'occurrence Anamana Gucci utilise une NES et une Game Boy hackée.
Voilà. D'accord.
Et donc ils font ça en live.
Ok. C'est pas la musique de Paperboy ?
Je sais.
Ça ressemble un peu.
C'est un peu comme de la musique 8 bits, sauf que la chiptune, la différence, c'est que c'est synthétisé en temps réel. Il n'y a pas
D'accord.
de sample.
Ok.
Voilà.
D'accord, ça marche. Alors, quoi de neuf dans l'univers virtuel cette semaine ?
Tu commences, c'est quoi, Harry ?
Alors, oui, pourquoi pas. Donc, là, c'est pas virtuel, c'est deux ingénieurs du MIT qui ont réussi à faire une imprimante 3D transportable. Donc on parle souvent des imprimantes 3D. Une des difficultés parfois, c'est que ce sont des machines qui sont assez imposantes, enfin, assez difficiles à déplacer.
Fragiles.
Ouais. Et là, du coup, ça va permettre des nouvelles possibilités, étant donné qu'elle est dans une valise. Elle va pouvoir être déplacée d'un endroit à un autre. Et donc voilà, c'est une innovation. Et elle permet également, donc elle permet de faire de l'impression 3D, mais également de découper, percer et fraiser.
D'accord. Et ça, voilà. c'est une vraie innovation parce qu'ils ont réussi à miniaturiser.
C'est ça, en fait. Les technologies, elles existaient déjà. Mm. C'est l'innovation, c'est d'avoir réussi à les miniaturiser pour les faire tenir dans une valise.
Très bien.
Autre actualité, toujours sur l'imprimante 3D, la Powder, donc c'est un projet open source d'imprimante à poudre. Donc quand on parle d'imprimante 3D, on a une imprimante qui marche un peu comme le pistolet à colle où ça dépose un petit filament de plastique sur la plaque. Et il y a d'autres imprimantes qui fonctionnent à poudre où en gros les imprimantes professionnelles déposent des fines couches de sable par exemple ou de silicium qui sont chauffées au laser et ça permet d'assembler les couches entre elles. Donc là, le principe du projet, c'est qu'il fallait un peu reproduire ce système-là en mode open source et en mode assez facile à refaire, donc en évitant le laser, par exemple. Ce projet se base sur des cartouches d'imprimante jet d'encre qui vont poser de l'eau, des gouttelettes d'eau, sur... là, on a regardé rapidement, c'est du ciment ou de la céramique, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau du composé qui est... en forme de poudre, mais sinon ça c'est assez simple à refabriquer normalement pour n'importe qui a accès à une découpeuse laser pour découper les plaques en plexi qui vont permettre d'assembler cette imprimante et après réutiliser une cartouche jet d'encre qui sont assez accessibles maintenant avec des projets Arduino qui permettent de connecter la cartouche jet d'encre et de contrôler la diffusion d'un liquide à partir de cette cartouche.
D'accord. Et alors en plus, en 3D et en couleur, quoi.
Pas en couleur pour l'instant.
Non,
parce que jet d'encre, c'est de l'eau.
C'est
pas des encres de couleur.
Ouais, en fait, la cartouche jet d'encre, elle permet d'apporter l'eau sur la matière pour la...
Pour l'agglomérer.
Ouais, voilà,
d'accord.
C'est ça.
Okay.
Parce que normalement, les imprimantes 3D, bon, y a différents processus, mais... industriellement, le plus répandu, c'est le laser.
Mmh.
Et en fait, le laser, il va permettre de polymériser la poudre. Enfin, la poudre, mmh. Ou parfois, ça peut être du liquide aussi. Il y a différentes
manières. Il me semble que Florent avait parlé de résine.
Oui.
Ou de cire, de choses un peu plus...
Alors ça, c'est encore une autre...
Pardon.
Alors là, c'est autre chose. C'est un bac de liquide.
D'accord.
Et le laser...
Sans laser, ouais. C'est le liquide qui réagit à de la lumière UV.
Ouais.
Donc si on projette une image sur le liquide au niveau de la plaque, le liquide va se solidifier suivant la projection de l'image.
D'accord. Donc, une impression photo en fait.
Voilà, ouais, ça évite de déplacer un élément sur la totalité de l'image. Sur la totalité du plan, on peut directement projeter l'intégralité de l'image et toute cette image projetée va se solidifier en même temps.
D'accord. Donc avec un système par couche encore où
voilà, on monte, et avec un seul axe au lieu d'avoir trois axes là comme sur l'imprimante à poudre ou sur l'imprimante à filament, ça simplifie au niveau de la mécanique et ça rajoute un petit peu de complexité au niveau de la chimie du liquide.
La gestion du bac.
Voilà.
D'accord. Et le rendu est quand même aussi précis quoi.
Beaucoup plus.
Et c'est aussi beaucoup plus rapide. Enfin bon, c'est toujours en cours d'expérimentation sur différentes branches de l'impression 3D. Hein.
Open source.
Hein.
Ouais.
D'accord.
Toujours impression 3D, des expériences là ces dernières semaines sur comment on avait parlé au dernier Bité au couteau sur comment imprimer des clés de menottes. C'était quelqu'un pendant, je ne sais plus si c'était le DEFCON ou le Black Hat, qui est des conférences hackers aux États-Unis, qui avait fait une conférence sur... des clés de menottes imprimables. Le problème qu'ils ont avec les menottes aux États-Unis, c'est qu'ils essayent de vendre des systèmes super sécurisés en disant que les menottes sont inviolables. Et là, quelqu'un qui traînait sûrement dans le milieu du lockpicking, donc c'est une catégorie du hacking où on essaye d'ouvrir des serrures, montrait qu'il était possible d'imprimer des clés, des menottes super sécurisées qui sont vendues super cher, parce qu'elles sont super... Bref.
Ouais.
Et donc voilà, c'est possible d'imprimer ses propres clés. Et
ouais, il les a faites en découpe laser aussi, apparemment. Mm-hmm. Donc les deux. Et disons que ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent ces clés. Ils font en sorte que tous les policiers aient une clé, la même clé identique, au cas où, par exemple, un détenu est arrêté et qu'il puisse être libéré par une autre personne.
D'accord.
Donc si on arrive à se procurer, là, c'est ce que personne a fait. Il a réussi à se procurer une clé grâce à des contacts et sur eBay également. Et il l'a reproduite en 3D et en laser. Et donc voilà. Du coup, maintenant, il détient le. Il a réussi à prouver qu'on pouvait, produire les clés pour ouvrir ses menottes.
Et dans la même catégorie, quelqu'un qui a comment on appelle ça, un blacksmith, les fondeurs de métaux aux États-Unis. Donc il y a quelqu'un qui bossait depuis quelques années sur l'impression d'une arme à feu. En 3D. Donc il a commencé il y a quelques années par imprimer la coque extérieure, donc qui n'était pas très sensible au choc et tout ça. Et là, alors je sais pas vraiment les détails, mais si vous allez sur canalsud.tetala.org, vous pourrez avoir les photos, les liens qui vont vous expliquer tout comment ça marche. Cette personne est allée de plus en plus proche des outils mécaniques de l'arme à feu, enfin des systèmes mécaniques, et a réussi à imprimer l'intégralité des composants de cette arme à feu. D'accord. Assez récemment. Donc après, j'ai pas plus suivi en détail quel système ou quel type d'impression il a fait il a utilisé pour avoir les parties centrales de l'arme à feu, ou je sais pas trop comment ça marche, mais ça doit être un peu solide. Et du coup, ça lance un débat un peu philosophique, si on peut télécharger ces armes à feu,
ouais,
à quel moment on gère le contrôle des armes.
Oui.
Donc il y a des sites, le site qu'on utilise beaucoup sur internet s'appelle Thingiverse pour télécharger nos propres objets et pour pouvoir les partager quand on en crée. Et ce site l'année dernière a demandé aux utilisateurs du site s'ils étaient pour ou contre le dépôt d'objets dangereux sur le site.
D'accord.
Donc la communauté a refusé de déposer ce genre de fichiers sur ce site, et ça a aussi créé d'autres sites où on peut trouver les fichiers qui ne sont pas acceptés sur ce site là.
D'accord.
Donc ça crée des nouvelles communautés de personnes qui justement ont envie de partager ce genre de fichiers imprimables dans l'esprit de la liberté d'expression sur Internet. Voilà. Alors après d'autres actualités, il y a Curiosity, un petit robot qui fait la taille d'une voiture, qui a atterri sur Mars il y a 15 jours à peu près maintenant.
On a beaucoup parlé dans les... dans les journaux, partout.
Partout, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ce robot ?
Ce qu'il y a eu de nouveau cette semaine, c'est la mise à jour du système d'exploitation du robot à distance.
Ce qu'ils n'avaient jamais fait ?
Ce qui se fait assez peu, à 150 millions de kilomètres, faire une mise à jour de logiciel pour prouver la robustesse du robot.
Et puis pour la robustesse aussi des... J'imagine qu'il y avait des relais satellites.
Voilà, des liaisons radio et tout ça.
Intéressant. Et qu'est-ce qu'il va faire de nouveau un peu? Non, il va faire comme d'habitude, prélever des échantillons, prendre des photos.
Voilà, là, il est posé dans un cratère et le but du jeu, je crois, la mission la plus proche, c'est d'aller donc au milieu du cratère, il y a une petite montagne qui est issue
une météorite.
D'une météorite. Ouais. Et c'est d'aller au pied de cette montagne et de regarder un petit peu les fossiles d'écoulement d'eau. Donc il y a de l'eau a priori qui aurait coulé à ces endroits-là et d'aller étudier la roche dans ces traces d'écoulement.
D'accord.
Et après de monter tout en haut de cette colline qui fait 5 km de haut.
Quand même. Une colline classique sur Mars.
Et une dernière actualité, c'est l'Équateur qui accepte l'asile politique pour Julian Assange. Donc Julian Assange qui est réfugié depuis 2 ou 3 mois dans l'ambassade de l'Équateur à Londres suite au refus de son appel en extradition pour la Suède. Donc normalement, il devait être extradé en Suède et pour éviter ce mouvement-là, il est allé se réfugier dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. L'Équateur qui voulait pas faire trop de bruit pendant les JO ont décidé d'attendre la fin des JO. Et la semaine dernière, donc c'est passé en plusieurs fois où l'Angleterre s'attendait un petit peu à ce que l'asile politique soit accepté. Ils ont menacé l'Équateur d'envahir par les forces de faire envahir par les forces de police l'ambassade. Donc c'est assez mal passé. Et du coup là, en plus l'Équateur a accepté l'asile politique et là maintenant Assange est réfugié politique en Équateur et ils attendent de savoir comment ils peuvent le déloger ou
de l'ambassade
ou s'il reste dans l'ambassade jusqu'à ce que l'affaire se passe autrement.
Et beau mouvement quand même de Julian Assange, profiter des JO pour remarquable communicant comme d'habitude.
Clairement, avec une grosse conférence avant-hier, je crois, sur le balcon de l'ambassade.
Ouais.
Pour réclamer la libération de Manning aux États-Unis, un soldat qui est emprisonné depuis 2 ans ou plus que 2 ans.
Oui, qui l'avait aidé dans l'affaire WikiLeaks.
Qui suspecté d'avoir donné tous les câbles de l'affaire WikiLeaks.
D'accord.
Et toujours en attente de procès.
Et à Guantanamo, je crois.
Dans les prisons américaines. C'est l'équivalent de Guantanamo, vu qu'il n'a pas accès à... C'est un tribunal militaire et il n'a pas vraiment accès à de la parole.
J'imagine.
Un classique maintenant. Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ? On s'écoute un peu de musique ou alors on passe au dossier de la semaine ?
Non, petite pause musicale avant.
Allez, petite pause. Et du coup, on va s'écouter
Brett Domino.
Brett Domino.
What would you do ?
C'est parti. What would you do if a shark started eating you? If you're swimming around in the lake downtown and he tries to have a bit of a chew, would you try to resist the massive jaws of the fish? You could lose your legs, but I suppose that's the risk. Or you could just let him swallow you whole, then curl up into a ball. And when you're deep down inside, you stick a knife in his side and then just crawl out alive. Uh-oh, if you don't have a knife, wait till he opens his mouth and try and quickly swim out. They're all potential ideas. But when the big shark appears, just be prepared. Dead. Yeah.
if a monkey started eating you. If you were down at the zoo going, oh look he's so cute, and he tried to take a bite out of you. I heard a monkey bit a woman's face off and pulled off her hands. It's true, it was in the news. So what would you do if it happened to you and you had no face or hands? It's ruined all your plans to be a hand and face model. You can't call 999 cause you haven't got the time, and you haven't got hands anyway, so you'll have to find another way. You can't just scream and shout cause the monkey ate your mouth, and you can't just try and kick him, he'll chew off your legs and nick him. I'm just trying to be realistic. So if a monkey went ballistic, you'd be prepared so you don't end up dead. Well, what would you do if a snake started eating you? You just sat up in the trees, enjoying the breeze, and he slithers down to share the view. Well, they vary from species to species. Some will bite you, and some will just squeeze you to death. Either way, you're gonna get eaten. Unless you think quick, you need to grab the nearest stick and do exactly what I tell you. Just bash it on the head, but don't relax cause it's not dead. It's just been temporarily stunned, you've still not got the time to run. You need to take hold of its tail, that's pretty much anything covered in scales, and tie it to a tree and then just peg it before it sees. I know it may sound audacious, snakes can be really dangerous, so you better be prepared, or you'll end up dead.
Voilà, vous êtes toujours sur Canal Sud, et on continue avec le dossier.
Oui, alors le dossier, moi je vais vous parler d'une exposition de design qui a lieu en ce moment à Genk en Belgique. Dans une friche industrielle, et c'est une exposition qui montre les possibilités en termes de design pour une troisième révolution industrielle. Alors c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler d'une troisième révolution industrielle, donc qui serait caractérisée par la libération des brevets. En fait, la deuxième révolution industrielle a mis en place les brevets qui protègent donc les innovations. Mmh. Et là, on est dans une ère, on va dire, réseau, où on libère les contenus, on partage. Donc, c'est ce qui s'est passé jusqu'ici avec Internet. Et cette libération du contenu, elle va arriver au stade de la production d'objets et d'énergie. Donc, c'est le... la libération de la production, on va dire, voilà. Alors, j'ai choisi un projet en particulier, peut-être. Alors, je vais rappeler qu'on peut voir, par exemple, ce projet sur le pad... sur
Canal Sud, toutattaché.tetalab.org.
Voilà, et vous pouvez également poser des questions en direct, et on essaiera d'y répondre. Voilà. Donc vous pouvez voir, en fait, ça s'appelle Open Structure, et c'est un wiki, mais pour la production d'objets. Donc la spécificité, en fait, c'est que, par exemple, on va déposer des objets sur ce wiki, et toutes les pièces détachées vont être accessibles, et il va y avoir plusieurs stades de production. Par exemple, le premier stade, ça va être en do-it-yourself total. Donc, un objet à se faire chez soi. Ça ne va pas être les mêmes pièces, ça va être des pièces plus faciles à trouver, plus accessibles. Ça va peut-être coûter un peu plus cher. Et donc, vous allez monter votre... donc là, en l'occurrence, c'est une bouilloire, votre bouilloire tout seul. Et donc, comme toujours avec ce type de projet, l'intérêt, c'est qu'après, on maîtrise la durée de vie de l'objet. On est en mesure de le réparer s'il y a un souci. Voilà, ça c'est le premier stade. Et après, il y a des variations en termes de pièces. Si on veut le produire en petite série ou en grande série, donc plus de 1000 exemplaires.
Dans le but de le vendre.
Ça peut être dans le but de le vendre. Par exemple, on peut dire qu'on va monter une micro-société pour vendre ses bouilloires.
En pièces détachées.
Ça pourrait, oui. Mais même si, par exemple, une société est montée pour vendre ses bouilloires, par rapport à une bouilloire classique, l'intérêt, ce sera toujours que la production, elle sera plus localisée. Mmh. Parce qu'en général, c'est fait avec des pièces qu'on peut trouver, soit qu'on peut trouver facilement près de chez soi, soit qu'on va pouvoir imprimer grâce à des imprimantes 3D ou découper grâce à des découpes laser. Donc ça permet de relocaliser la production, ce qui est un gros débat en ce moment, en fait.
Oui.
Donc c'est ça qu'il faut voir dans ce projet. Bon, pour ce qui est de l'aspect esthétique et du design global, on laisse libre cours à l'appréciation de chacun.
Bah c'est libre cours à l'imagination même de chacun. Bon, après, c'est vrai que la chose est moins design et moins packagée que la bouilloire du commerce. Mais
Je pense que ça, c'est une volonté, parce qu'on pourrait... ça, c'est un parti pris esthétique, on va dire, qui est discutable, mais qui n'est pas inintéressant. Voilà, et il faut savoir que ce principe de wiki se développe également pour l'architecture.
D'accord.
Donc, pareil...
De bâtiments.
Oui, voilà, c'est ça. Et il va y avoir donc des architectures en wiki. Le même principe, en fait. Le but étant de pouvoir reproduire ça avec les outils à disposition de manière locale. Mais également, ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'intérêt de tout ça, à partir du moment où on fabrique ces pièces en impression 3D ou en découpe laser, on peut également modifier la taille, ou on peut effectuer des modifications en fonction des besoins. Par exemple, quelqu'un qui a besoin, qui par rapport à son utilisation de la bouilloire, aura juste besoin de 0,5 litres ou 2 litres, en étant un peu bricoleur, il va pouvoir faire cette modification. Enfin là, c'est assez simple en l'occurrence, c'est une bouteille, donc il n'y a pas besoin d'être très bricoleur.
D'accord.
Voilà. Et également, alors j'ai parlé de libération des brevets, j'ai pas parlé des Creative Commons.
Non, tu peux rappeler ce que c'est. Ouais.
Les Creative Commons, en fait, sont des brevets libres avec divers stades en fait de protection. L'intérêt, c'est de rendre accessibles les innovations pour qu'elles puissent être reprises par d'autres personnes et être évoluées. En fait, le principe des brevets jusqu'ici, c'est qu'une entreprise détenait l'innovation. Elle la gardait bloquée en son sein pendant 20 ans, je crois. Enfin, ça dépend des brevets. Et là, avec les Creative Commons, le but, en fait, c'est justement de dire que... je vais, par exemple, reprendre moi cette bouilloire, je vais retravailler dessus, je vais retravailler, je sais pas, peut-être que je vais reprendre le fonctionnement, mais que je vais créer un design qui correspond plus à mon sens de l'esthétique, ou alors au contraire, je vais modifier la contenance ou des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'on est en mesure, à partir d'un objet, de créer
des incrémentations.
Ouais, voilà, c'est ça, de faire
Des produits dérivés.
Voilà, le faire à sa propre sauce.
Le faire en fonction de ses besoins, c'est ça.
D'accord.
Donc il y a des projets comme ça sur Thingiverse, dont on parlait tout à l'heure, site de téléchargement d'objets, où quand on télécharge un objet et qu'on le modifie à sa propre sauce, on peut le remettre sur le site. Et comme ça, on peut suivre un peu l'évolution de l'objet qui est remodelé, redéfini, et avec des nouvelles utilisations, avec des choses en plus, des choses en moins, sur toute une histoire d'un objet. Donc il y a un truc qui est assez courant sur Thingiverse, un objet qui sert à rien, c'est le Cube Gear, ça s'appelle. C'est un petit engrenage, une forme de cube qu'on fait tourner. Donc, les premiers modèles, c'était pour le faire tourner, c'était avec des vis. Après, il y a quelqu'un qui a... Voilà. Remplacer la vis par un objet imprimable, parce que forcément on n'a pas toujours des vis avec ça. Donc comme ça, ça évolue. Et pour la bouilloire, pareil, il y a quelqu'un qui va peut-être remplacer, peut-être qu'il y a un problème sur la bouilloire au niveau de certains composants qui sont un peu difficiles à trouver. Du coup, il va trouver une solution et au fur et à mesure, comme ça, l'objet va évoluer pour à la fois répondre à l'utilisation de la personne qui a essayé de le construire et pour que chacun puisse trouver des solutions dans les différentes évolutions de cet objet.
C'est ça. Bah, par exemple, sur Thingiverse, bon, il y a des produits de démonstration. Donc, Alex parlait de ce fameux cube. Ça, c'est un objet qui n'a pas d'utilité réelle, mais qui sert à démontrer les possibilités de l'impression 3D pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Après, il y a également des pièces qui peuvent servir pour fabriquer des objets, comme par exemple des rouages, des fermetures. Mmh. Et donc, en fait, si vous avez besoin de rouages, par exemple, eh ben, vous pouvez télécharger des rouages déjà faits, les adapter en fonction de la taille de l'objet. Donc, ça, c'est une fonction scale, c'est-à-dire qu'on va juste modifier l'échelle et ça permet de rendre accessible des produits et des connaissances à tout le monde. C'est le but initial du wiki, en fait.
Mmh. Florent me disait qu'il avait imprimé une pièce de sa machine à laver qui était cassée. Ouais. Mmh. Que du coup, d'une part, il avait miné dans sa machine à laver et d'autre part, il avait réparé du coup, sans en racheter une.
Ouais. Et assez souvent, c'est des pièces qui sont introuvables
à l'unité.
Ou même retrouver un revendeur de pièces de ce type-là, c'est pas toujours évident. À moins que ce soit des joints ou des choses comme ça qui sont assez faciles à trouver, des pièces mécaniques en plastique qui sont faites pour casser.
Ouais, ça c'est vraiment une utilisation de l'impression 3D qui est importante et qui va se développer. C'est de, pour l'instant, tant que les objets, l'idée c'est de faire en sorte que plus tard on puisse justement, s'il y a un problème avec la machine à laver, juste aller sur internet et sélectionner la pièce dans la notice de la machine à laver et la réimprimer directement. Ça, dans l'idée, c'est ce qui va se passer dans le futur. D'accord. Sauf que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et justement, les personnes qui arrivent à bricoler un petit peu le font, sélectionnent la pièce qui est cassée, la reproduisent en trois dimensions et la remplacent. Ça demande quand même de s'y connaître un minimum, quoi. Mmh.
Ouais, il faut pouvoir la redessiner.
Ouais.
Okay, ouais. Et avoir une imprimante disponible.
C'est ça. Mmh. Moi, c'est ce que je fais pour ma poignée de frigo. Voilà, qui est cassé, c'est du plastique. C'est pas réparable, à moins de mettre de la colle comme une barbare, mais.
Mmh. Ouais, d'accord.
Voilà.
Pas mal. Donc la troisième révolution industrielle, qui est en cours.
Oui. Disons que c'est né d'Internet. Et donc c'est une vision du progrès qui est horizontale. Et qui est géré par tout le monde. Donc, comme Internet, c'est plus quelqu'un qui détient les droits et qui gère pour la production, par exemple. On est dans ce schéma-là où ce sont des entreprises qui détiennent la possibilité de produire. Et donc l'utilisateur, lui, il n'est pas maître. En fait, il suit l'innovation qu'on lui propose. Et l'innovation qu'on lui propose, elle est déterminée par le capitalisme. On n'est pas dans un souci de produire au mieux pour un besoin, on est dans un souci de produire au mieux pour que les gens consomment plus. Donc là, ce que ça va changer, c'est que si l'utilisateur est à la base de la pyramide, de l'innovation et de la production, on va arriver à des objets plus adaptés à des besoins réels.
D'accord.
Voilà. On voit de plus en plus aussi apparaître des techniques d'innovation collective. Alors en fait, ce sont des sortes de workshops où on réunit plein de personnes avec des compétences différentes. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans les hackerspaces et les Fab Labs. C'est des réunions de compétences qui permettent de créer ensemble, mais en dehors de toute entreprise, des projets généralement destinés à être en open source. Voilà.
D'accord.
Bon.
Il n'y a pas de questions sur le pad ?
Toujours pas de questions. Il y a quelqu'un pour qui le pad ne marche pas, donc c'est la seule question qui se pose pour l'instant.
D'accord. Et voilà. Problème technique.
Je vous rappelle que vous pouvez aller sur canalsud.tetalab.org pour accéder aux informations dont on parle, accéder aux musiques, aux génériques et aux dossiers aussi, avec quelques liens pour voir. Sur des pages web, de quoi on parle? On peut passer à l'agenda maintenant, peut-être?
Oui.
Et puis rien à rajouter?
Non, ça y est, c'est fini.
Donc l'agenda, comme tous les mercredis, vous pouvez nous retrouver au Theta Lab. Donc, Theta Lab se trouve à Mixart Méris, 12 rue Ferdinand Lassalle. On se retrouve à partir de 21h. Et là, c'est l'été, donc peut-être pas beaucoup de monde. Enfin, si, comme d'habitude, il y a au moins une 10-20aine de personnes. Et voilà, vous pouvez venir avec vos boissons pour boire des coups avec nous. Et nous retrouver, parler des sujets dont vous avez entendu parler aujourd'hui ou des projets que vous avez personnels. Ça se passe pas mal autour des Arduino, des montages électroniques, des montages de projets do it yourself, un peu hardware et software aussi. Et voilà, discuter avec les gens et tout ça. Et oui. pas trop d'autres projets dans l'agenda. Bah, c'est encore c'est, les.
On revient dans 3 semaines.
On revient dans 3 semaines. Il y a le Groland mi-août, mi-septembre. Oui. Donc, il y a le Festival international du film grolandais qui aura lieu mi-septembre à Toulouse dans les 3 gros cinémas, l'ABC, l'Utopia et le Cratère.
Et avec une soirée au Connexion Café, il me semble.
Une soirée au Connexion Café, à Cinémathèque aussi. Et à Mixart Méris aussi, il y aura une soirée avec le Gros Lab, le Hackerspace de Groland, qui viendra présenter ses installations sur Minitel. Voilà.
Et il y a eu des rencontres là au tournant
juillet-août. Les 3 dernières semaines. Donc il y a eu le French Hackers Space Camp qui a eu lieu à 30 km de Toulouse.
À
Villefranche de Lauragais pendant un week-end.
Ça s'est bien passé.
Ouais, c'était très bien. Il y avait pas mal de gens qui venaient de la région de Lyon avec le LOL, le Hackerspace lyonnais.
Et ceux qui l'avaient organisé.
Ils voulaient aller en Auvergne au début et finalement ils se sont retrouvés ici. Et, c'était bien. On était une vingtaine, donc ça permettait de mélanger les hackers et les autoconstructeurs qui sont déjà sur le lieu de je sais plus comment ça s'appelle.
L'illégal,
oui.
C'est quoi l'illégal?
Donc c'est une ferme.
C'est une sorte d'association où je sais pas trop comment. C'est un lieu associatif, on va dire. Ouais. Il y a un bar aussi, mais également il y a des recherches un peu artistiques.
D'accord.
Voilà.
Mm-hmm. Ok, ça se passait là-bas donc.
Ouais, surtout le week-end, pendant un week-end en tout cas. Et voilà, il y a eu quoi ? Il y a des mots d'impression 3D, il y a quelqu'un d'autre qui a essayé de monter un lifter, enfin, plusieurs. Lifter, c'est un système en triangle avec du papier d'alu et un fil de cuivre. On branche ça à la sortie d'un écran cathodique, donc c'est à très haute tension. Et le fait qu'il y ait des tensions qui passent, il y a tout le système, donc le triangle qui fait une trentaine de centimètres, qui se soulève de la table par un espèce de flux magnétique, donc j'ai pas trop compris comment ça marchait, mais il y a eu un peu de succès pendant ce week-end. Et après il y a eu une autre semaine donc qui est encore en cours, qui termine aujourd'hui je crois, c'est à Pas de Loup. Ça se passait à côté de Breuil et Péonne dans les Alpes-Maritimes, c'est bien ça, oui, au-dessus de Nice, à 80 km de Nice, et où c'est la suite d'un festival qui avait eu lieu il y a 2 ans aux Estives Numériques, qui donc là on se retrouvait chez Bilou, quelqu'un qui a construit sa maison en plein milieu de la montagne, et tout en autogestion, donc l'eau, c'est l'eau qui tombe du ciel, l'électricité c'est les panneaux solaires, et voilà comment... réussir à survivre dans ces conditions à 80 personnes et avec des projets de hack do it yourself, genre comme des il y a eu des éoliennes, un atelier de fabrication d'éoliennes, un atelier de fermentologie ou l'utilisation des ferments pour créer soit du petit lait, soit du fromage, soit de la bière de riz, plein de choses. Il y a eu un
atelier sténopé aussi, j'ai vu.
Ouais, pas mal de photos.
Ouais.
Et avec du café et de l'urine pour avoir accès aux matériaux. Pour le développement, ouais. Comme il y a pas mal de chimie pour le développement d'habitude. Donc c'était des essais sur d'autres solutions de développement. Et du Super 8, il y a eu...
Oui, c'est vrai, ouais.
Et une espèce de hackerspace avec une serre qui servait à cultiver certaines plantes qui servaient à d'espace électronique, soudure, montage en tout genre. Et c'était vraiment intéressant.
Cool. Très bien. Et quelque chose à rajouter ? Ou alors on vous donne rendez-vous dans 3 semaines ?
C'est ça.
On se retrouve dans 3 semaines.
Ça marche. Eh bien, merci à vous. Allez, on va donc terminer ce magazine en musique, bien sûr. On vous laisse en compagnie des programmes de l'après-midi. Le temps de faire un petit update sur les...